Vous écoutez, on lit pour vous.
L'éloge du vice, un texte de Sylvia Galipeau paru le 3 mars 2024 dans la presse. Vous aimez les charcuteries? Un petit verre de vin blanc ici, un autre de rouge là, vous levez tard et procrastinez, parfois? Sans doute est-il temps d'arrêter de vous auto-flageller, parce que le bonheur, le vrai, est peut-être là, tout près. Dans ces petites et pas forcément bonnes habitudes de vie, humbles failles et autres faiblesses que vous aurez enfin acceptées. Si vous n'avez pas fait le défi sans alcool et déjà abandonné toutes les autres résolutions prises pour la nouvelle année, lisez ce qui suit. D'autant plus si votre projet de classer rigoureusement vos papiers pour les impôts est évidemment tombé à l'eau. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plusieurs psychologues interrogés pour qui la course à la perfection et cette volonté constante de se changer est non seulement utopique, irréaliste, mais surtout nuisible. Cessons de nous comparer. L'acceptation de soi serait finalement une bien plus sage stratégie. C'est un savoureux article du Guardian en début d'année qui nous a mis sur cette agréable piste en titrant, tenez-vous bien, « Beer, vaping and scrolling. My bad habits make me feel good. What do I do? » Traduction libre, boire, vapoter, perdre son temps en ligne. Mes mauvaises habitudes me font du bien. Est-ce grave, docteur? On a posé la question à plusieurs spécialistes. On parle de comportement à problème pour nous, ou de comportement à problème pour la morale de la société, s'interroge d'emblée le psychologue Nicolas Chevrier, président des services psychologiques Sequoia, au bout du film. C'est quoi un vice? Ici, la définition est un élément important et il faut revenir à nous-mêmes, ce que nous, on croit, qui est bon pour nous, et ce qui, sans excès, nous amène un certain plaisir. Les termes clés, nous et sans excès. Si je passe 2 heures sur les réseaux sociaux par jour, est-ce que moi, ça me fait du bien? Est-ce que les autres sphères de ma vie sont affectées? Est-ce que je néglige ma famille, ma vie intellectuelle, familiale, mon sommeil, mes activités sportives? Peut-être que ces heures à regarder des vidéos de chats vous font finalement plus de bien que de mal. Encore faut-il se poser la question et s'accepter. C'est important de s'assumer, dit-il, développer une bienveillance par rapport à nous, ne pas tomber dans la perfection à l'extrême. Chacun, on a nos forces et nos faiblesses, et on a nos plaisirs. D'ailleurs, il ne faut pas se comparer, mais comparons tout de même. En moyenne, nous passons tous quelque 2,5 heures par jour sur les Snapchat, Instagram et TikTok de ce monde, révèle une étude relayée par de nombreux médias en début d'année. Cela fait 876 heures par année, soit l'équivalent de 36,5 jours. Bref, nous ne sommes pas seuls dans ce vortex virtuel. S'accepter et se connaître. La psychologue et conférencière Rose-Marie Charret planche justement sur un livre sur l'acceptation ces jours-ci, à paraître l'automne prochain. Nous avons malgré tout plus de raisons d'être heureux. Titre de travail. Se veut une synthèse de ce que son travail clinique lui a apporté comme connaissance de l'être humain, résume-t-elle. Entre autres, l'importance d'arrêter de constamment vouloir changer et enfin s'accepter. Fait à noter, non seulement ça fait du bien, mais souvent c'est là qu'on peut faire des changements. Contre-intuitif, vous dites? Pas forcément. Il faut arrêter d'être son adversaire, dit-elle, parce qu'à force de se dire « il faudrait que », insérer ici « je boive moins », « je bouge plus », etc., vous perdez vos signaux internes. Un exemple, la perte de poids, poursuit Rose-Marie Charret. À force de mettre l'accent là-dessus, on perd de vue ce qu'on a envie de manger. L'estime de soi en prend pour son rhume. Or, si, à l'inverse, on s'accepte tel qu'on est, avec sa gourmandise, on a une meilleure estime de soi. On se sent mieux et probablement qu'on aura de meilleures habitudes alimentaires. Le secret, s'accepter. Attention, s'accepter ne veut pas dire se complaire dans ce qu'on est, mais plutôt se connaître, comprend-on, pour ensuite, éventuellement et progressivement, prendre des décisions réalistes. Pour reprendre l'exemple des vidéos de chats, si vous savez que vous y passez vos soirées et vous prenez conscience par vous-même de la quantité de jours ainsi perdus par année, peut-être entreprendrez-vous naturellement de réduire votre temps d'écran. Un changement en douceur, plus efficace que de se marteler à répétition « il faut que je désinstalle Instagram ». Autre exemple éloquent, l'exercice. On veut tous faire plus d'exercice, poursuit la psychologue. Moi, l'année où on m'a fait un programme d'exercice, ça a été l'année où j'en ai finalement le moins fait. Pourquoi? Parce que le dit programme ne partait pas de qui elle, Rosemarie Charest, est. Il ne tenait pas compte de mon horaire, qui je suis, les activités qui me plaisent, et j'ai perdu de vue ce que j'aimais faire. Vous ne faites pas votre lit tous les matins et vous vous en portez très bien? Merci. Si ça vous fait du bien, pourquoi on changerait? Répond la psychologue. Généralement, c'est pour tenter de correspondre à un modèle. Il faut tenir compte de sa propre histoire, ce qui nous convient. Parce que le fameux « modèle » est rarement une motivation intrinsèque, mais bien extrinsèque, poursuit-elle. D'ailleurs, avec les années, Rosemarie Charest en est venue à ce constat. En vieillissant, je pense que les gens les plus heureux sont ceux qui ont accepté d'être imparfaits. Toute notre vie, il y a des choses qui ne font pas notre affaire, ajoute-t-elle. On a l'impression de ne pas manger assez de légumes, de regarder trop la télé, de ne pas lire assez ou au contraire d'y passer des nuits entières. Mais ceux qui s'acceptent, en général, ont de meilleures relations avec les autres et une image d'eux-mêmes plus positive. Le point sur les défis. Un mois sans sucre, sans écran ou sans alcool. Les défis lancés sur les réseaux sociaux ne manquent pas. Mais si on n'a pas de problème particulier, je ne vois pas l'intérêt, affirme ici le psychologue Nicolas Chevrier. Quel est l'intérêt de me priver d'un aliment précis que je consomme de façon non problématique? Si problème il y a, un sevrage ou une privation d'un mois n'est sans doute pas la meilleure idée qui soit. La meilleure façon de faire un changement est de prendre conscience du problème, poursuit-il. Mettre en place un plan réaliste avec des petits objectifs réalisables, viser un comportement à la fois et chercher de l'aide si on n'y arrive pas. Pas de faire un happening social, dit-il. Pardon, un happening social virtuel, plutôt. Le défi devient alors une affaire de gestion de l'image. Et sur les réseaux sociaux, on le sait, quand on se compare, on est à peu près toujours perdant. D'ailleurs, se comparer aux autres est néfaste. Il est où, alors, le bonheur? Dans l'équilibre, conclut Nicolas Chevrier, selon mes plaisirs et mes intérêts. C'était L'éloge du vice, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Ce patron est-il paternaliste ou juste attentionné? Un texte de Carla L. Miller, The Washington Post, paru le 28 mai 2024 dans la presse. Question. Je suis un homme dans la cinquantaine et je supervise d'excellents jeunes gens, parmi lesquels de jeunes femmes. De temps en temps, je dois me rendre en auto à des réunions et l'une d'elles doit y être aussi. Il est logique qu'on y aille dans mon auto, ce qui signifie que je serai seul dans une voiture pendant 2 heures avec une jeune femme n'ayant pas d'autre moyen de transport. Chaque fois, je leur dis que s'il y a un quelconque malaise à l'idée d'être seul avec moi dans l'auto, pas de souci, elles peuvent prendre un taxi et l'entreprise paiera. Chaque fois, elles me regardent comme si j'étais cinglé et elles viennent avec moi. Alors je me demande maintenant si je ne suis pas trop paternaliste. Je souhaite que toute ma petite équipe progresse dans l'entreprise et je veux être un bon patron, ce qui implique, je crois, un certain paternalisme de temps à autre. Mais je veux aussi qu'elles écoutent leurs tripes devant des situations inconfortables. En tant que bon gars, qui sait qu'il n'y a pas que des bons gars dans la vie, y a-t-il quelque chose que je devrais faire autrement? Réponse. Je salue votre volonté de créer un environnement de travail sûr et respectueux, ainsi que votre sensibilité aux défis des femmes dans leur vie quotidienne. Je ne veux pas non plus ignorer l'évaluation inconsciente de la menace que vos employés font sans doute chaque fois qu'elles se retrouvent seules avec un étranger. En tant que femme qui a déjà eu 23 ans, voici ce que je penserais si mon patron me faisait une offre similaire. Devrais-je me sentir mal à l'aise seule avec lui? A-t-il été impliqué dans un incident antérieur? A-t-il peur que je l'accuse à tort de quelque chose? Si je prends le taxi, est-ce que je rate une occasion d'établir un bon rapport avec mon patron? Fait-il la même offre aux hommes de notre équipe? Mais voyez comment votre effort pour créer un sentiment de respect et de sécurité chez vos subordonnés pourrait avoir l'effet inverse. Il est clair que votre intention est d'anticiper leurs préoccupations et d'établir la confiance. Mais vous les traitez comme des femmes d'abord, des employés ensuite. De plus, vous leur imposez la responsabilité de se récuser d'une activité professionnelle banale. Votre action se situe à la frontière ténue entre la prise en compte des différences, inclusion, et le traitement préventif des personnes en raison de vos suppositions sur ces différences, discrimination. C'est un cousin pas si éloigné de la surcorrection extrême survenue après que le mouvement #MeToo a montré le harcèlement au travail et la misogynie. Les gestionnaires masculins, pour éviter d'être accusés d'inconvenance, ont exprimé leur réticence à servir de mentor, à voyager avec des collègues féminines ou à discuter directement avec elles. L'ironie de la chose, c'est que pour éviter une forme de discrimination fondée sur le sexe, ces cadres en adoptent une autre, refuser aux femmes soutien et perspectives de carrière en raison de présomptions fondées sur le sexe. Je ne parle pas au nom de toutes les femmes, mais d'après moi, l'équité au travail tient en grande partie à deux concepts. Nous ne voulons pas être la cible de mauvais traitements en raison de notre sexe, et si nous croyons que ça arrive, nous voulons être prises au sérieux. Vous pouvez soutenir cela comme patron en invitant tout le monde à donner son avis, même si c'est difficile à entendre. En écoutant plus qu'en parlant. En demandant plus qu'en ordonnant, et s'il y a plainte, en suivant le protocole de votre entreprise. Ce sont ces pratiques, et non la galanterie paternaliste, qui confirmeront votre identité de bon gars digne de confiance. Quand vous sentez la nécessité de faire aux femmes de votre groupe une offre que vous ne feriez pas aux hommes ou vice-versa, faites donc une petite pause et demandez-vous si vous pouvez recadrer la situation sans avoir besoin d'appliquer deux règles différentes. Ainsi, le taxi, au lieu de votre voiture, pourrait devenir la norme pour se rendre à ces réunions avec tous vos subordonnés, hommes ou femmes. Ou bien, vous pouvez inverser la formulation de votre offre. Au lieu d'imposer à vos jeunes le fardeau de refuser de voyager avec vous, vous pourriez dire « J'y vais en auto demain. Si vous voulez que je vous emmène, je pars du bureau à 8 heures. Sinon, on se retrouve chez le client à 9 heures. » Cela leur permettrait d'accepter ou de refuser sans malaise pour n'importe quelle raison que vous n'avez pas besoin de savoir. Par exemple, les jeunes n'aiment pas la musique que vous mettez dans l'auto. D'après moi, si vous êtes aussi sérieux dans la vie que l'impression que vous donnez dans cette lettre, vos employés savent déjà que vous êtes un bon patron et un bon gars à qui elles peuvent faire confiance. elles seront heureuses que vous les aidiez à faire avancer leur carrière. C'était « Ce patron est-il paternaliste ou juste attentionné ?» un texte de Carla L. Miller, de Washington Post, paru le 28 mai 2024 dans La Presse.
Le deuil d'une quincaillerie de quartier. Un texte de Marc Tison, paru le 15 janvier 2024 dans La Presse. Une autre petite et irremplaçable quincaillerie de quartier ferme ses portes après 35 ans. Une dernière visite, ponctuée de coïncidences, de souvenirs et d'anecdotes. La quincaillerie BMR Express Esquimau occupe une étroite façade rue de Marseille dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans chacune des deux vitrines qui encadrent sa porte, un petit écriteau annonce « Merci à tous nos clients pour votre fidélité et votre confiance ». Les 10 clients ne s'y trompent pas. Juste une question. Il y a des remerciements. « Est-ce que vous fermez ?» a demandé un homme qui est entré et sorti sans rien acheter, une fois assénée la terrible réponse du quincaillier Gilles Lambert. « On s'aligne pour ça, oui. Il n'y a pas de date fixe, mais au printemps. » Une visite non annoncée. Je la fréquentais depuis mon arrivée dans le quartier il y a 20 ans, lorsque j'avais besoin de tout et de n'importe quoi. Ce 8 janvier, j'y suis entrée à titre de journaliste, sans m'annoncer. La veille, un compagnon d'entraînement, client de longue date de la quincaillerie, n'avait appris que sa mort était annoncée. Ce ne sont pas les soins intensifs. Une lente agonie, plutôt. Le commerce, étroit et peu profond, commence à se dégarnir du fouillis d'articles et d'outils de toutes sortes qui s'entassaient sur ses étagères et ses murs encombrés. Au fond du magasin, des coups de maillet résonnent. Gilles Lambert referme des contenants de peinture pour une cliente entre deux âges. Je l'attends à son poste de vigie habituel, au comptoir caisse de l'entrée. C'est un homme de grande taille, mince et sec comme un panneau de gypse. Toujours serviable, au débit aussi rapide que les robinets qu'il a si souvent contribué à réparer. J'essaie de vendre depuis 2 ans et demi, et il n'y a rien à faire, confirme-t-il. Il travaille dans le domaine depuis plus de 45 ans. 35 ans ici et 11 ans ailleurs, précise-t-il. J'ai 64 ans et 3/4. Il tenait le commerce avec son frère Jacques, qui s'est éteint en février 2022, à 70 ans. Depuis ce temps-là, je suis tout seul. La comptable. L'acheteuse s'est approchée de la caisse pour payer sa peinture. C'est la femme de mon frère, mon partenaire quand on a ouvert. La présente Gilles Lambert. C'est une coïncidence. Marie-Claude Papin fait la comptabilité du commerce depuis ses tout débuts. Et je continue. Je ne suis pas pour le laisser tomber, lance-t-elle en riant. À l'origine, la quincaillerie était locataire dans l'immeuble. Quand le propriétaire l'a mis en vente, Marie-Claude a profité d'une clause de premier refus au bail pour souffler l'édifice à un autre acheteur. Il a été revendu en 2021, quelques mois avant la mort de son mari. C'est le dépanneur d'en face qui a racheté, relate-t-elle. Chez le notaire, il nous a confié que c'était son offre qu'on avait à côté autrefois. Deux frères. La quincaillerie a eu un employé occasionnel de temps à autre, mais les deux frères ont la plupart du temps travaillé seuls. Mais ensemble. Ça se faisait très bien à deux, dit Gilles Lambert, quand tu te respectes mutuellement. Lui faisait sa job et j'avais la mienne à faire. Il répondait aux clients et s'occupait des étalages. « Tu étais plus manuel, » intervient Marie-Claude. « Tu connaissais la plomberie et l'électricité, tandis que mon mari était plus dans l'agencement des couleurs de peinture. » Dans l'agencement des caractères et des compétences également. « Ça a cliqué, » constate Gilles. « On ne le sait pas quand on s'embarque là-dedans. On a beau se connaître comme frère, on ne se connaît pas dans le fond. » La clientèle. Comme pour faire la preuve de la variété des articles de la petite quincaillerie, un vieil homme achète une poignée de porte-fenêtres. Il tend ses billets pour payer la facture de 45,95 $. « Les jeunes ne connaissent pas ça, le comptant », lance Gilles Lambert. « Ils achètent deux vis et ils te donnent une carte de crédit. Je leur dis qu'on paye des frais. » « Pas moi, » qu'ils disent. « Mais on paye tous des frais. » En trois décennies, la clientèle a beaucoup changé. « Avant, les gens connaissaient zéro puis une barre », dit M. Lambert. « Maintenant, ils l'ont vu sur Internet. » Ils ne savent pas comment le faire, mais ils l'ont vu sur l'Internet. Une cliente veut réparer la bande d'étanchéité de sa porte de frigo. Gilles lui recommande un petit tube de colle contact d'une marque connue. « J'ai confiance dans celle-là, » lui dit-il. « Moi aussi, j'ai confiance en vous, » réplique la vieille dame. « Vous écoutez, le deuil d'une quincaillerie de quartier » Un texte de Marc Tison, paru le 15 janvier 2024 dans la presse. La pandémie décisive. Gilles Lambert s'était promis de prendre sa retraite à 65 ans. Avant la pandémie, j'avais de la misère à me mettre en tête que j'arrêterais de travailler. Mais pas depuis la pandémie. J'étais tellement fatiguée de gérer les gens. Alors que tous les confinés du quartier se lançaient dans des travaux de rénovation impromptus, il lui fallait gérer les files qui se formaient à l'extérieur du magasin, désamorcer les bousculades autour de la caisse, apostropher les délinquants qui refusaient de porter le masque. Je faisais la police. Ce fut le signal de la fin prochaine d'une carrière. J'ai un petit vertige. Tu parles d'une vie au complet. Il a cherché un acheteur en sachant que les chances de succès étaient minces. Il y a eu des véreux qui sont venus voir. Ils sont venus, ils ont vu et ils n'ont pas brandi leurs écus. L'investissement en temps est trop important. Je faisais 70 heures par semaine, illustre-t-il. Il ne regrette rien. Ni les efforts, ni les heures, ni surtout l'infinie patience avec les clients. J'étais à ma place. J'étais sur mon X, comme on dit. Tout petit déjà, il visitait les quincailleries du plateau Mont-Royal où il a grandi. Il y avait une odeur, se rappelle-t-il. Il désigne un client qui entre sur les entrefaites. C'est lui, le propriétaire. Le propriétaire. Venu acheter un boîtier électrique et une plaque d'interrupteur, Gassan Haïdar détient depuis 31 ans le dépanneur d'en face. « Moi aussi, quelquefois, je suis tanné, » confie-t-il. « Ce que je trouve plate, c'est de ne pas pouvoir transmettre le commerce, » reprend Gilles, qui n'a pas d'enfant. « J'ai essayé de trouver quelqu'un, » assure Gassan Haïdar. À défaut, il n'est pas encore fixé sur le commerce qu'il ouvrira dans le local bientôt libéré. Peut-être un marché halal. Une quincaillerie, ce serait mieux, énonce-t-il. Mais qui voudrait le faire? Les gens disent qu'ils n'ont pas d'expérience. Car autant que les clous, les prises électriques ou les coudes de tuyauterie, les conseils à la clientèle constituent le fonds de commerce d'une quincaillerie de quartier. Justement, un client âgé cherche une cornière de finition pour le carreau de céramique qu'il a apporté, ce qui lui vaut quelques judicieux commentaires. « Vous ne fermez pas ?»« Oui, on est rendu là. »« Pas vrai. On va s'ennuyer dans le coin. On trouvait ça bien pratique. » C'est pour faire passer cette amère pilule que l'écriteau en façade n'annonce pas expressément la fermeture. « Je veux y aller doucement, » dit Gilles Lambert. « Ça fait parler les gens, tabarouette. Pourquoi vous fermez? Vous ne devriez pas. Je sais que vous êtes rendu là, mais... » Je ne pensais pas que ça les affecterait à ce point-là. Je suis très surpris. Ce désarroi est le signe de son importance dans sa communauté, même s'il s'en défend. J'ai des clients qui arrêtent ici juste pour me conter des blagues, puis ils s'en retournent, relate-t-il. Il y a 2 mois, un client m'a dit « Je ne sais pas si on va se revoir avant que tu fermes. Viendrais-tu souper avec moi et ma femme ?» Il a accepté l'invitation. Tout ça pour une job de quincaillier, souligne Gilles Lambert. On ne mérite pas tant d'attention. Un médecin va sauver des vies. Moi, j'ai aidé à réparer des affaires. C'est tout. Mais si j'avais été un avocat, avec tous les conseils que j'ai donnés, je serais riche, monsieur. Vous n'auriez pas idée. Le Pinocchio. Perché sur une haute tablette, dans la section de peinture, un grand Pinocchio en bois teint se dresse, lointain symbole de la marque Sico. Peut-être Gilles Lambert le conservera-t-il en souvenir, une fois son commerce fermé? Il est vendu depuis longtemps, répond-il. Le client le voulait tellement. Il m'a dit « Je le paye, tu me le donneras quand tu t'en iras. » Ça doit faire 15 ans. Le client prendra bientôt possession, récompense d'une confiance absolue et sereine projetée dans le temps. Canadian Tire ne fera pas ça, lance le commerçant. La veille, Ghislain, mon compagnon d'entraînement, m'avait raconté qu'il était entré un jour dans la quincaillerie de Gilles Lambert en quête d'un dispositif quelconque à mettre sur le toit de sa voiture pour transporter un objet volumineux. Il m'a tendu les clés de sa camionnette. Ça non plus. Ça n'arrivera pas chez Home Depot. C'était « Le deuil d'une quincaillerie de quartier », un texte de Marc Tison, paru le 15 janvier 2024 dans la presse.